Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: Souffle, vent de Dieu.
Un premier dans le Nouveau Testament, si vous voulez bien. Alors, le livre de Paul aux Éphésiens. Donc, je rappelle, Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Et au verset premier, quelques lignes. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je poursuis simplement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà pour notre première lecture, nous allons faire une seconde. Vous savez que dans la Bible, il y a des récits, des textes qui nous ravissent, qui nous rafraîchissent, qui nous réconfortent, qui nous consolent. Mais cet après-midi, si vous voulez bien me suivre, je vous emmène dans le texte le plus sinistre qui existe dans la Bible. Est-ce que ça vous intéresse? Le plus terrible. Je ne vais pas seulement vous emmener dans un cimetière, je vais vous emmener dans un ossuaire. D'accord? Vous avez deviné? Alors, ça se situe où? Ce fameux ossuaire. Ézéchiel, j'entends quelqu'un qui murmure, Ézéchiel, chapitre 37, et nous allons associer ces deux textes, et nous allons voir ce que Dieu est capable de faire quand les hommes disent « il n'y a plus rien, c'est fini, tout est mort, aucune espérance », Dieu dit « relevez la tête, la vie va apparaître ». Voilà. Donc, Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà, que Dieu nous éclaire dans cet espace de ténèbres. Mais là où il y a des ténèbres, eh bien, vous savez que Dieu fait paraître sa lumière, son soleil de vie. Vous vous souvenez de la première lecture, il nous est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels, eh bien, nous avons vécu, dans lequel nous étions prisonniers, dans lequel nous étions retenus, nous dit l'apôtre Paul, par le prince de la puissance de l'air, l'esprit, finalement, qui règne depuis les temps immémoriaux sur l'humanité, à cause de la désobéissance, à cause de la chute. Et voilà que, eh bien, les hommes se sont pris à vivre sans Dieu, ils ont vécu selon leurs pensées, selon leurs convoitises, et se manifestant par la rébellion, la colère. Et Paul dira, parce qu'il n'y a pas de dissociation, il dira, mais moi j'étais comme eux auparavant. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que Christ m'a fait grâce. Il m'a donné la vie, la vraie vie. Mais voyez que la suite est tout à fait intéressante, et nous la retrouverons dans le texte premier, enfin le texte que nous avons lu tout à l'heure. Mais il nous est parlé de la grâce et de l'amour de Dieu, à cause de cet amour infini dont il a manifesté en nous donnant Jésus. Et parce que nous étions morts, eh bien, il a effacé finalement ses offenses, et puis il nous a rendus vivants, il nous a donné la vie en Christ. Et c'est bien marqué, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés par grâce, mais nous sommes sauvés par grâce dans la mesure où nous croyons que Christ est mort à notre place, qu'il s'est fait, eh bien, le substitut, et qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes couverts à travers, tout simplement, eh bien, la place qu'il a prise, il nous a pris tout simplement, il nous a sauvés, il nous a libérés. Et aujourd'hui, nous vivons, nous avons notre identité dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors voilà ce rappel qui nous est donné. Et puis nous allons essayer de faire cadrer tout ça avec cette vision que le prophète Ézéchiel reçoit de Dieu. Et c'est l'Esprit qui le conduit. Hein, il nous est dit que c'est la main de Dieu qui a conduit le prophète, hein, l'Esprit de Dieu, et il a été transporté tout simplement là dans un milieu tout à fait sinistre, épouvantable. C'est là où les hommes ne veulent pas vivre naturellement, parce qu'il n'y a pas à vivre de cet endroit, sinon peut-être un gadarénien, hein, vous connaissez l'histoire. Alors le prophète va descendre dans ce lieu épouvantable, dans ce lieu morbide, et voilà que Dieu va le placer là, à ce moment-là, et il va voir, il va contempler une vision terrible, hein, apocalyptique nous pourrions dire, une vallée qui est remplie d'ossements. Et le prophète va passer, il va regarder de droite et de gauche. Et voilà, il va rendre témoignage que c'est une multitude. Ce sont des milliers, une myriade finalement de ces hommes-là qui sont là, qui sont réduits en, non pas en cadavre, mais tout simplement un dépouillé de la chair. Et il nous est bien précisé avec cet adverbe, il nous est dit, mais ils étaient complètement sec, voilà, complètement sec, c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'espoir, hein. Il n'y a plus rien à attendre, hein. La longueur, le temps qui a passé, la durée a fait que il n'y a plus de vie et depuis bien longtemps. Alors Dieu l'interpelle et va lui dire tout simplement, bien regarde, et c'est Dieu qui va poser la question à l'homme, alors que c'est souvent nous qui pourrions poser la question à Dieu devant la mort, hein. Mais là, c'est le contraire. Alors Dieu va poser la question, mais il connaît déjà la réponse, hein. Nous, quand nous posons une question au Seigneur ou à quelqu'un d'autre, c'est que nous ne savons pas. Alors il va poser la question, il va lui dire à Ézéchiel, mais est-ce que ces os pourront revivre? Alors humainement parlant, il est bien sûr qu'on sait ce qu'est la mort. Hein? Qu'est-ce que vous voulez répondre à une telle question? Est-ce que ces os vont revoir finalement la vie? Est-ce qu'ils vont retrouver la vie tout simplement? Alors le prophète ne va pas dire grand-chose, il va dire, mais Seigneur, hein, il n'y a que toi qui le sais. Hein. Il ne prend pas de risque, mais il n'y a que toi qui le sais. Alors, puisque les choses sont dites, maintenant, eh bien, il va se passer autre chose. Dieu va mandater le prophète de prophétiser. Il est prophète, c'est son travail. Et il va prophétiser, non pas sur les vivants, mais il va prophétiser sur tous ces morts qui sont autour de lui. prophétise sur ces os, et tu diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ah oui, si c'est la parole des hommes, si ce sont les spéculations des hommes, si ce sont les espérances des hommes, il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais là, il s'agit de la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui a dit de faire, eh bien, il faut le faire parce que Dieu veut faire quelque chose après avoir été chargé d'avoir dit, de dire ce que lui nous a dit de dire. Il faut beaucoup de foi, hein. Alors, ainsi parle le Seigneur à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ah oui. Le corps sans l'âme, le corps sans l'esprit, c'est rien du tout, hein. Ben, c'est ça. C'est ce que nous avons lu, hein. Il n'y a rien du tout. Et Dieu fait la promesse, vous vivrez. Vivrez, je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître de la chair, vous aurez de la peau, je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez. Ah, je crois que c'est une très belle projection dans cet avenir qui viendra, qui se réalisera finalement avec la venue de Jésus, hein, avec cette nouvelle alliance, avec l'évangile, où les principes sont déjà posés bien longtemps à l'avance. Où là, eh bien, c'est vrai qu'on se souvient de cette histoire, de cette rencontre formidable, unique, unique dans le texte, mais tellement multipliée à travers le temps et puis à travers les siècles et les générations, de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Vous savez, hein, il est bien question du vent, il est bien question de l'esprit, il est bien question de naître de nouveau, il est bien question de ressusciter, il est bien question de renaître. Alors, nous voyons que, eh bien, les choses sont ainsi, et vous saurez à ce moment-là que je suis l'Éternel. Vous savez, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Dieu martelait continuellement à Moïse pour qu'il le dise au peuple, « Et vous saurez que je suis l'Éternel !» Et assurément, c'était un miracle extraordinaire, c'était un prodige de faire sortir les Hébreux de la férule, de l'esclavage, de l'asservissement de cet empire tyrannique, occulte et tout ce que vous voudrez qui était l'Égypte. Alors la mort, c'est pareil, hein, c'est aussi, en quelque sorte, eh bien, le royaume et l'empire de la mort et des pharaons, parce que quand on connaît l'Égypte, on sait que c'est aussi l'empire de la mort avec leurs pyramides, leurs tout cela. Donc, il y a un rapprochement à faire, si vous voulez, hein, naturellement. Et voilà que l'affirmation est donnée, mais vous saurez que je suis l'Éternel. Il n'y en a qu'un qui peut faire vivre, c'est Dieu. Ouais. Et les gens le savent bien, hein. Moi, je pense à tous ces gens qui sont sous les décombres. Eh, vont-ils vivre, vont-ils mourir? Eh oui. Et je suis sûr qu'il y a certainement dans cette misère, épouvantable catastrophe, des gens qui crient à Dieu. Alors vont-ils vivre, vont-ils mourir? Parce que c'est Dieu qui fait vivre, c'est tout. Et on aura certainement la surprise, ça sera dit ou ça ne sera pas dit, qu'au dernier moment, peut-être après des jours, et les chances s'amenuisent de plus en plus, hein, chaque heure, chaque minute compte en ce moment. Hein, et on retrouvera, comme peut-être vous avez vu ces images, de ce petit enfant de 16 mois, une petite fille, qui a été extraite de la terre, et c'était une véritable joie dans cette catastrophe où tout le monde pleure. Eh bien, je crois qu'il y a peut-être encore des gens qui vont sortir in extremis, et ces gens auront vécu parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. Hein. Puis il y en a d'autres qui vont partir. Mais ça, c'est terrible, c'est comme ça. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et celui qui est passé par là sait que c'est Dieu qui l'a fait vivre. Vous savez, quand on réchappe d'une maladie mortelle ou d'un accident, ça change la vie. Hein. On n'est plus pareil après, hein, quand on est passé par ces expériences. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, Ézéchiel va dire, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Ah oui, c'est... Moi, j'aime bien la relation qu'il peut y avoir entre ce vent, ce souffle, ce bruit, entre Nicodème, la Pentecôte, vous savez, un vent impétueux dans toute la maison. Hein, et il nous est dit qu'à ce moment-là, il s'est passé des phénomènes extraordinaires. Les langues de feu, et puis le parler en langue, ce souffle qui va aller et qui va venir jusqu'à nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement les bénéficiaires, mais nous sommes aussi les communicateurs de ce vent et de ce souffle. Hein, nous avons le relais, et Dieu nous a fait l'insigne privilège, à travers sa parole, eh bien, de continuer à porter. Alors il se fit un mouvement à ce moment-là. Il nous est dit que les os s'approchèrent les uns des autres. C'est presque un scénario de science-fiction, hein. Mais c'est la réalité, hein. Je regardais, nous dit Ézéchiel, et voici, à ce moment-là, selon ce que Dieu avait dit, parce que Dieu ne se trompe pas, des nerfs, c'est-à-dire c'est l'animation, c'est le mouvement, hein. Et puis, la chair a cru sur ses os, hein, la peau les a couverts par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Ouais, il manquait l'essentiel. Vous savez qu'il y a toute une humanité avec des millions et des milliards d'hommes. où il y a, on peut dire, la peau, il y a les os, il y a finalement la chair, il y a les nerfs, avec tout ce que cela peut comporter d'animation dans ce monde, tantôt dans un sens ou dans un autre, dans le bien ou dans le mal. Alors, mais s'il n'y a pas l'esprit, humanité perdue, nous étions morts à cause de nos péchés, de nos offenses, hein, on l'entend encore, hein, ce que nous avons là lu tout à l'heure. Hein. Alors, puisqu'il manque un élément essentiel, alors tout à nouveau, c'est Dieu qui parle au prophète et lui dit, mais prophétise, annonce, dis la pensée de Dieu, dis, déclare la volonté de Dieu et parle à l'esprit. T'as l'esprit à ce moment-là. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et c'est sur cette phrase qui vient, sur laquelle je voudrais vous amener à réfléchir. Il est dit ceci, esprit, avec un grand E, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Esprit vient des quatre vents et souffle. Je trouve que c'est une parole admirable, me semble-t-il. Ouais. Esprit vient et souffle. On le chante, hein, on le décline dans nos cantiques. On a quand même pas mal de cantiques qui parlent du sujet, hein, et des beaux cantiques d'ailleurs. Alors on va faire un peu de géographie, si vous voulez bien. Les quatre points cardinaux, ça vous rappelle des souvenirs, hein. Vous marchez à la boussole, non? Non, on n'a pas de boussole dans sa poche, hein, parce que bon, tout est indiqué, on suit les indications, les panneaux, etc., etc. Mais quand on est dans un endroit où on ne sait pas, où on ne connaît pas, où il n'y a pas de repère, l'inconnu, alors à ce moment-là, on a une boussole et puis on prend, naturellement, hein, on choisit la direction. Dans notre langage familier, on parle du sud, on parle du nord, on parle de l'ouest et de l'est. Alors dans la Bible, les termes sont un petit peu différents. On parle du midi, on parle du septentrion, on parle de l'occident et de l'orient. Vous avez deviné, hein, naturellement. Et chaque orientation, chaque position a un sens particulier. Quand on parle du vent, alors on va rester sur le vent, le souffle, quand on parle du vent du midi, ça évoque quoi pour vous? Alors je sais qu'il y a un vent qui s'appelle le Sirocco, il souffle du désert, il traverse la Méditerranée et il nous amène du sable par chez nous. Allez, il vient jusqu'ici, hein, quelquefois, hein. Le Sirocco. Alors il amène de la chaleur, ouais, et puis il réchauffe. Voilà, c'est un vent dont les propriétés, j'ai pas été très loin, hein, mais il faudra que je regarde ça de plus près pour amplifier. Donc il souffle du midi, il souffle du sud, et il apporte donc chaleur et il réchauffe. Le vent du nord, alors là en ce moment on le ressent un petit peu, hein, quand même, hein, quand on vous dit que le vent souffle de Scandinavie ou de... c'est un vent qui est froid. Mais quelquefois, il peut rafraîchir aussi. Il rafraîchit la terre, en tous les cas, quoi qu'il en soit. Alors, c'est un vent qui vient du nord, qui vient du septentrion, des régions septentrionales. Et puis, il y a le vent d'ouest, alors on le connaît, hein. C'est un vent d'occident, et il amène la pluie, et puis l'humidité. Alors, il a un rôle quand même de fertilisation, hein. Il est indispensable, ce vent-là, et les uns et les autres, d'ailleurs. Et puis quand il s'agit du vent d'Orient, du vent d'Est, alors qu'est-ce qu'il est ce vent? Il est vif. Ah oui, c'est un vent qui, comme on dit, il pique. C'est ça, hein? Il mord. Alors attention, hein, il faut se couvrir quand c'est comme ça, le Nord et puis l'Est. Hein, c'est. Mais quelquefois, ce qui est vif, ça réveille. Oui, ça réveille. Parce que là, il faut se ressaisir. Alors j'aimerais justement vous parler des vents de Dieu. Parce que... Le vent de Dieu, il donne la vie. Il ne donne pas la mort. Il donne la vie, ce vent-là. Et quand on reprend ce passage où le prophète est appelé à dire « Esprit, viens des quatre vents et souffle », alors on va voir que Dieu souffle. Il y a le mot, la connotation, il y a la pensée, il y a l'image de la parole. La parole, c'est un souffle. C'est un souffle qui exprime, qui s'exprime. Alors, il y a, c'est vrai, quatre vents. On pourrait dire que Dieu souffle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Je dirais, je parlerai d'abord, et vous lui mettrez la situation par rapport aux points cardinaux que vous voudrez. Hein, ça, je ne veux pas vous imposer, hein, et je n'impose rien d'ailleurs. Il y a ce vent que nous appellerons le vent de la foi dans ce que Dieu dit. Eh oui. C'est un vent qui souffle et qui dit. Il dit la volonté de Dieu. Il dit les désirs de Dieu. Il dit les promesses de Dieu aux hommes. Il déclare. Et vous savez, je crois que c'est par rapport justement à la foi que nous mettons, à la confiance que nous mettons dans ce que Dieu dit, eh bien que les âmes peuvent revivre. Eh oui. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et puis on pourrait multiplier les choses à l'infini comme cela. Combien la parole de Dieu est là pour éclairer les hommes, pour eh bien leur apporter cette chaleur dans ce monde froid et hostile, pour les réchauffer. Parce que la foi, elle réchauffe. On l'a chanté tout à l'heure, hein, je crois, on a chanté la foi. Ouais. Et je pense que ça, c'est un souffle de Dieu, il est indispensable. Et Dieu décline ce souffle de différentes manières, comme nous le faisons dans la prédication, dans ces moments que nous partageons ensemble. Il peut le faire à travers votre témoignage. Il peut le faire à travers la lecture de la Bible particulière, personnelle. Mais Dieu, en tous les cas, souffle de ce vent-là. Et lorsque nous entendons cette parole et que nous attachons, eh bien, nous y mettons foi, nous mettons foi, nous portons foi à cette parole et que nous réalisons à ce moment-là eh bien, que c'est un souffle qui passe dans notre vie. Et ça nous fait du bien. Et un souffle qui nous donne la vie. De quelle manière sommes-nous parvenus à la conversion? C'est parce qu'un jour, on nous a parlé. On ne nous a pas parlé de n'importe quoi. On ne nous a pas parlé religion ou philosophie. On nous a parlé de Jésus. Et de là, eh bien, nous avons été conduits à recevoir le livre des livres, de l'ouvrir, de le lire. Et nous avons entendu Dieu nous parler personnellement. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai reçu en tous les cas. Dieu m'a parlé personnellement. Et cette parole a créé de la foi dans mon cœur. C'était un souffle, c'était un vent. Et peu à peu, eh bien, j'ai vu que ma vie, en raison de ce que j'étais mort dans mes péchés, dans mes offenses, eh bien, ma vie a, on peut dire, a ressuscité. Parce qu'il y avait cette promesse de vie. Et ça, c'était extraordinaire. À cause de la parole, à cause de ce que Dieu avait dit, j'étais rempli de cette chaleur de Dieu. J'ai été réchauffé quelque part. Moi qui tremblais à l'intérieur, comme chacun d'entre nous, nous tremblons. Parce que si nous n'avons que les éléments naturels, religieux qu'on nous a donnés, eh bien on tremble, oui, parce qu'on a froid en soi-même, on sent qu'on est seul. Hein, et il y a tant de promesses qui nous disent que non, on n'est pas seul. Mais ça, il faut connaître la Bible. C'est ce vent, c'est la foi dans ce que Dieu dit. Le deuxième vent, eh bien, je l'appellerai tout simplement un souffle d'amour et de grâce. Eh oui. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit vendredi soir pour ceux qui étaient là? Élie attendait que Dieu lui parle dans le feu, dans le tremblement de terre, et puis dans le tonnerre. Mais il a parlé dans un souffle doux et léger. Et je crois que s'il y a quelque chose qui caractérise eh bien, la personne de Dieu, qui est un attribut majeur de Dieu, premier de Dieu, c'est l'amour et la grâce. Eh oui. Et il souffle par sa grâce et par... Eh bien, son amour, il le manifeste. Alors, vous redire ce que vous savez déjà, si je vous dis Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est la foi de ce que nous avons dit précédemment, alors quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et cela tout simplement parce qu'il nous aime. Il a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde. Et encore le dire et le redire, mais un monde qui ne méritait pas ni d'être aimé, ni d'être, et qui n'est pas aimable, et qui encore moins, je ne vois pas pourquoi Dieu nous aurait sauvés, sinon par grâce, généreusement, par l'effet de sa faveur et de sa mansuétude, rien d'autre. Alors, l'amour et la grâce, ce vent d'amour et de grâce qui passe sur nous, qui vient quelque part un petit peu comme le vent d'ouest, hein, le vent d'occident, qui vient... humidifié, qui vient détremper ce qui est là desséché, ce qui est racorni, ce qui ne peut plus vivre. Et si nous comprenons quelque chose, eh bien c'est que Dieu est venu visiter nos cœurs pour leur donner un peu de cette grâce. Et on le voit bien, par exemple, dans notre texte de référence que nous avons lu tout à l'heure, dans Éphésiens, au verset 4. « Si je le rappelle, il nous est dit ceci, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, Alors ça, c'est un vent qui souffle. Et heureux les hommes, oui, vraiment heureux l'homme qui entend la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu, qui a foi dans la parole de Dieu et qui découvre finalement que Dieu s'adresse à lui, qu'il l'appelle, que Dieu le convie à une expérience extraordinaire, mais qu'il va apprendre à ce moment-là que Dieu l'aime, contre toute espérance et toute attente, parce que nous sommes souvent renvoyés à notre propre corruption, à nos péchés, à notre culpabilité, eh bien voilà que Dieu va nous tenir un langage en disant que malgré tout cela, malgré notre péché, eh bien Dieu est prêt à nous accueillir et nous apporter son pardon, nous apporter tout simplement eh bien cette faveur, cette situation imméritée que nous sommes tout à fait indignes, mais c'est un vent qui nous fait du bien. Et combien d'hommes, de femmes sont venus certainement par milliers ou millions entendre le message de l'Évangile ou ont lu le message de l'Évangile. Il y a une chose qu'ils ont ressentie, c'est ce vent doux et léger qui est passé dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur conscience en disant, bien voilà, où Dieu leur a dit, mais je t'aime, viens vers moi, ne reste pas dans ta situation, ne reste pas enferré dans ton obstination, ne reste pas enfermé dans ta prison, dans tes addictions, dans toutes sortes de choses, parce que sache que je t'aime et je t'appelle à moi. Et ça, c'est un vent qui fait du bien, vous comprenez hein, quelqu'un qui vous dit « je t'aime », c'est quand même mieux que quelqu'un qui vous envoie un coup de poing. Parce que ça, c'est quand même un signe d'hostilité manifeste. Mais là, c'est tout à fait différent. C'est parce que c'est une ouverture, parce que c'est un accueil qui nous ramène à penser ce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, pouvait dire, mais l'amour de Dieu, quand il parlera de sa largeur, de sa longueur, de sa profondeur et de toute sa hauteur. Ça, c'est un souffle. Donc, ce vent qui vient, c'est celui de la foi dans la parole, dans ce que Dieu dit. Cet autre vent qui arrive également sur les hommes et qui fait revivre ceux qui sont morts, c'est l'amour et la grâce, et qui nous parle de pardon. Et puis, il y a un troisième vent. Troisième vent, eh bien, il est tout à fait caractérisé, il est unique. Rien ne pourra le remplacer. On ne pourra toujours rien faire pour essayer de le substituer à autre chose. C'est la croix de Jésus. Un vent qui souffle de la colline. Ouais, une colline de mort, mais une colline de vie aussi. Ouais, il y a les deux. Et de ce vent-là, qui vient, eh bien, nous apprenons quelque chose. C'est que ce vent-là, eh bien, il nous enseigne une alliance. Il nous enseigne un pacte de paix, une réconciliation. Quelqu'un, finalement, a pris notre place, alors que nous aurions dû être là-haut. Quelqu'un a pris finalement, notre destination inéluctable, inévitable, c'est-à-dire le jugement et la condamnation, mais quelqu'un y est monté. Et ce vent, il souffle de la colline sur le monde entier. Et pour peut-être bien montrer à tout le monde que c'est pour l'humanité entière, eh bien Jésus a étendu ses bras pour dire que c'était pour tout le monde. Ça, c'est le vent de la croix. Et sera irremplaçable. C'est un vent qui dure et qui souffle encore. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris quand il parlera. Quand il dira, mais je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, nous ne vous avons pas apporté ce message, ce vent, ce souffle de la croix, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais nous vous l'avons apporté avec une démonstration d'esprit et de puissance, pour montrer que ce vent-là, eh bien, c'est un vent qui vient de Dieu, c'est un vent qui nous apporte les preuves que Jésus n'est pas mort pour rien. Alors, à quoi pourrions-nous le comparer? Eh bien, peut-être, ce vent qui descend de la croix, c'est un vent qui réchauffe. C'est un vent qui rafraîchit ceux qui sont desséchés. C'est un vent qui apporte l'abondance, telle que la pluie du vent d'Occident. Et puis, c'est un vent de réveil aussi, hein, vous comprenez? Ouais. La croix, c'est vif. La croix, ça interpelle la conscience. La croix, ça remue les hommes. Et c'est pourquoi que l'évangile sans la croix, ce n'est pas l'évangile. Il y a au cœur de l'évangile, il y a la croix de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est l'essentiel, c'est le fondement, c'est la base. Alors, on s'attend peut-être au quatrième vent maintenant. Souffle, viens des quatre vents et souffle, Seigneur. Esprit, viens, c'est ce qui donne la vie. Alors, je l'appellerai tout simplement le vent de la résurrection, puisque nous sommes dans un ossuaire. Puisque le monde est rempli de cette vision de gens qui sont morts spirituellement, qui sont autour de nous, que nous regardions à droite, que nous regardions à gauche. Certains pensent qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils s'imaginent qu'en raison de ceci et cela, toutes sortes de moralité ou autre, de piété ou autre chose, eh bien ils sont vivants, mais ils sont morts quand même, parce que pour être réellement vivant, il faut passer par eh bien ce que nous avons dit, la foi en Dieu dans ce que Dieu dit, recevoir l'amour et la grâce de Dieu, accepter le sacrifice de la croix, mais aussi, cela nous amène directement à cette expérience qui s'appelle la résurrection, c'est-à-dire revivre, renaître. C'est pas seulement dire, eh bien voilà, je me réveille. Non. Oui, il y a réveil, certainement il y a réveil. Mais la résurrection, c'est quoi pour chacun d'entre nous? C'est le symbole de la puissance. Dieu a redonné la vie à un mort et redonne la vie aux morts. C'est de la puissance et c'est de la puissance pure. C'est inimaginable cette puissance, parce qu'encore on a parlé de puissance de l'évangile à travers les guérisons, les miracles et toutes sortes de prodiges, mais la résurrection c'est encore autre chose. Là où il n'y a rien à faire, ossements desséchés, vallées désertiques, stériles, eh bien Dieu est capable de ce milieu-là de faire ressortir la vie. Et ça c'est formidable et c'est extraordinaire, c'est ce que nous annonçons et nous sommes heureux de l'annoncer. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ça, nous avons besoin de le garder au fond de notre cœur. Ouais, ce quatrième vent, eh bien, c'est le vent qui souffre un réveil. Et ce réveil, c'est les morts qui sortent de leur tombeau. Ouais, il y a ce beau texte que je garde toujours en mémoire. Ah oui, je le garderai jusqu'à la fin. Dans un psaume, il nous est dit, « Seigneur, à mon réveil, je verrai ton image. » Je trouve que c'est formidable, extraordinaire. Trouvez pas, non? Enfin, moi, je le trouve formidable, ce verset. Le jour où je fermerai les yeux, je les ouvrirai. Et à mon réveil, je verrai son image. Ça, c'est l'image de la résurrection. C'est l'image de ce que nous avons et de ce que nous portons au fond de notre cœur. C'est notre espérance. On ne vit pas uniquement pour les beaux jours, pour le printemps qui arrive, et puis pour la voiture, et ceci et cela. On vit pour autre chose. Là, tout ça, c'est de l'accessoire, vraiment de l'accessoire, très, très accessoire. Mais le reste est l'essentiel, le fondamental, hein, l'indispensable, l'ultime. Eh bien, c'est ce que nous disons cet après-midi. C'est vraiment parce que nous croyons en Jésus et que, en Jésus, la mort ne l'a pas retenu dans le tombeau, mais tout a été roulé et Jésus est ressuscité. Vent de la résurrection. Vent et souffle de Dieu, c'est ce que Paul nous le rappelle quand il dira ceci toujours. Je reviens toujours à mon texte, hein, mon premier texte, au verset 5 et 6, il est dit ceci. Nous qui étions morts par nos offenses, nous étions des ossements desséchés, nous étions dans la vallée, hein, des ténèbres, nous étions dans l'ossuaire. Alors il nous a rendus vivants avec Christ. Vivants. Dans votre traduction, ça peut être, il nous a rendus à la vie, non? Vous n'avez plus les yeux sur votre Bible. Mais c'est pas grave. Non. C'est pas grave. Alors, il nous a rendus vivants. Il y a l'action là. Nous sommes vivants en Christ. Et nous sommes vivants aujourd'hui, hein, en Jésus-Christ. Alors, comme si c'était nécessaire de le rappeler, mais c'est vraiment nécessaire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. C'est pas par nos mérites. C'est pas par nos bonnes œuvres. C'est pas parce que nous aurions essayé de tenter de gravir finalement le ciel. Non, c'est par grâce. C'est parce que le Seigneur l'a bien voulu. Et pourquoi l'a-t-il voulu? Tout simplement parce qu'il nous aime. Et pourquoi nous aime-t-il? Ah. Voilà. Nous, on ne trouverait pas les réponses pour nous. Mais il nous aime à cause de Jésus-Christ. Il nous aime parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus irrémédiablement et pour l'éternité. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et nous ensemble, nous avons la même foi. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y aura de la place dans le ciel. Hein, et il y aura des sièges pour tout le monde. Comment nous aimerions voir cette salle où il n'y aurait plus de place, hein? Plus une chaise. Alors on pourra toujours dire aux gens, quand il n'y en aura plus, ben vous avez, croyez, parce que vous avez une place de l'autre côté, nous sommes assis. C'est un lieu de repos, être assis. Hein. On est là, paisible. Alors nous sommes assis dans les lieux célestes, et tout cela dans un but particulier, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire jusqu'à nous, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Imaginez-vous, c'est superlatif que... Tout ça, ça s'élève de plus en plus, hein. Des mots très très forts. La gloire, richesse, grâce, bonté envers nous à travers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Alors, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, ça ne vient pas de nous, hein. Ça vient d'ailleurs. Esprit souffle des quatre vents, des quatre côtés, et envoie ton esprit. Esprit souffle sur nous. Alors, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis, dans la fin de notre texte, il nous est dit ceci. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Moi, je pense toujours à la Pentecôte, je passe à l'église qui s'est levée après la Pentecôte, remplie du Saint-Esprit, remplie de feu, remplie de vie, remplie de la parole, communicateur de toutes les grâce qui découle de la croix, la guérison, le Saint-Esprit, hein, le baptême, enfin toutes sortes de choses, la libération. Alors l'Esprit est entré en eux, ils ont repris vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Seigneur, on n'a qu'une vision très petite des choses, hein, parce que c'est comme ça. Elle est très locale en tous les cas. Mais néanmoins, je pense que le Seigneur voit grand, hein, et il voit tout. Armées nombreuses, très nombreuses. Mais écoutez, nous avons une mission à remplir. Parce que quand on a lu la suite, il nous est dit car nous sommes son ouvrage. Nous sommes sa création. Nous sommes sa rédemption. Enfin, le résultat de sa rédemption. Résultat de sa rédemption, nous sommes son ouvrage. Et nous avons été créés en Jésus-Christ, figurez-vous. Pas un autre. Nous n'appartenons pas à une congrégation. Nous n'appartenons pas à une dénomination. Nous appartenons au corps de Christ qui est l'Église, qui est son Église. Et nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes. Mais ces œuvres sont consécutives à la foi et non pas le contraire. Parce que ça, il faut le dire aussi, on a tellement dénaturé les choses. C'est parce que je crois en Jésus-Christ, je suis sauvé en Jésus-Christ, parce que je suis ressuscité en Jésus-Christ, qu'après, eh bien, je vais porter la nature. Je vais porter les vertus de Christ autour de moi. Et ce sera les bonnes œuvres qui vont être produites, non pas pour moi, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire seule de Jésus, que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons, eh bien, le peuple de Dieu, dans chacun notre place, c'est une armée nombreuse, très nombreuse. Oui. Alors, on se dit, mais on est si peu. Si vous comptez, si vous faites la comptabilité, hein, dans tous les siècles, 20 siècles de christianisme, à travers peut-être même notre monde contemporain, où il y a des gens qui, certainement, eh bien, sont passés par l'expérience de la repentance, de la nouvelle naissance, et puis de la conversion à Jésus-Christ. Ça se voit ou ça se voit pas, mais Dieu les connaît. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et ça, c'est rassurant. Alors, à ce moment-là, on peut dire... Oui, Seigneur, tu nous as fait, tu nous as sortis de la vallée des ossements. Tu nous as extraits de cet ossuaire, hein, comme Israël, puisque c'est la référence, hein, naturellement, dans le texte pour Ézéchiel. Mais tu nous as extraits de tout ça. Tu nous as arrachés à la mort pour nous donner la vie. Celui qui croit au nom du Fils de Dieu a la vie en lui-même. Il a la vie éternelle. Alors que le Seigneur nous aide, hein, cet après-midi. Ça va ? On est ressuscité ou pas ? On laisse souffler le vent ? Hein ? Le vent qui souffle et qui passe dans nos vies pour nous régénérer ? Ce vent qui nous guérit cet après-midi à votre place ? Ce vent qui nous amène l'assurance que nous sommes pardonnés si nous nous repentons de nos fautes ? Ce vent qui va briser, qui va nous délivrer de nos chaînes et de nos liens ? Ce vent qui va souffler sur nous pour nous donner une nouvelle dimension à notre dynamisme, à notre vie personnelle, vie morale, vie spirituelle. Alors laissons-le souffler. Oui, esprit, viens, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents et apporte la vie dont nous avons besoin. Alors que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant, parce que prier c'est aussi un souffle qui monte vers le haut. Hein, on va demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Je vais demander à Baptiste, si tu veux bien élever ta voix, et demander à Dieu qu'il nous visite cet après-midi, qu'il nous fasse du bien. Et on va se mettre là, dans le vent de Dieu. Merci.